République et laïcité. La loi du 1er juillet sur les associations va avoir des conséquences considérables sur le progrès de la laïcité. Les suites de l'affaire Dreyfus vont donner l'avantage à un gouvernement de défense républicaine. L'antisémitisme qui s'est déchaîné est victime de ses outrances, de ses dérives. Aux obsèques de Félix Faure, Paul Déroulède, le créateur de la Ligue des Patriotes, tente un coup d'État qui échoue piteusement. Le régiment qu'il voulait entraîner à sa suite vers l'Élysée pour prendre le pouvoir n'avance pas d'un centimètre. Les nationalistes ne désarment pas. Le nouveau président Émile Loubet est assailli le 4 juin 1899 par une bande d'agités sur le champ de course d'Auteuil. Il est traité de président des Juifs. Le baron Christiani lui donne même des coups de canne sur la tête. Des coups de canne sur la tête d'Émile Loubet, le président, c'en est trop. Pierre Valdec-Rousseau, républicain qui, avec Ferry, a fait voter en 1884 la loi sur les syndicats professionnels, devient président du Conseil. Son gouvernement de défense républicaine est composé de radicaux, mais aussi d'Alexandre Millerand, le premier ministre socialiste de la République. Le trublion des Roulèdes est condamné au bannissement. Les chefs de la Ligue antisémite sont poursuivis. En octobre 1900, Valdec-Rousseau prononce à Toulouse un discours qui va faire grand bruit. Il y dénonce les moines ligueurs et les moines d'affaires. Il montre du doigt les religieux congrégationnistes, parle du milliard des congrégations. Un pas de plus est franchi le 1er juillet 1901. Afin que les congrégations religieuses ne puissent plus proliférer sans le contrôle de l'État, une loi sur les associations est votée. Désormais, les associations de personnes peuvent se former librement. Cependant, une déclaration rendant publique la création de l'association est obligatoire. Un décret publié le 16 août précise que, pour ce qui concerne les congrégations religieuses, la demande doit être adressée au ministère de l'Intérieur, qui fait procéder à une instruction et transmet le dossier au Conseil d'État. Le barrage est prêt à fonctionner. Le 4 juin 1902, Valdec-Rousseau, gravement malade, démissionne. C'est alors qu'arrive sous les projecteurs de la scène politique un sénateur radical, le plus radical des radicaux, Émile Combes, le petit père Combes, hypocoristique créé par l'histoire. C'est un ancien séminariste. Reçu docteur en théologie avec une thèse sur saint Thomas d'Aquin en 1860, il commence à enseigner, mais à la manière de Renan, une petite voix lui susurre au tréfonds de ce qu'il ne nomme plus alors son âme, mais sa conscience, « Ce n'est pas vrai, tout cela n'est pas vrai. » Bref, il devient athée. Non seulement athée, mais pris d'une sorte de frénésie vengeresse contre le goupillon. Devenu médecin, il exerce un temps, puis est élu sénateur en 1885. Président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes, en mai 1902, il a 67 ans, il prend pour levier la loi de 1901 et fait basculer dans l'illégalité des centaines de congrégations non autorisées. Son objectif avoué est de les supprimer toutes jusqu'à la dernière.
L'anticléricalisme masque le malaise social. Bloc républicain, bloc de la défense républicaine ou bloc des gauches? Ces trois noms recouvrent une coalition de parlementaires de gauche soutenant Valdec-Rousseau depuis 1889. Elle soutient aussi Dreyfus et triomphe aux élections législatives d'avril 1902, réunissant des socialistes, des républicains modérés, des radicaux socialistes et des radicaux. Ces derniers sont les plus nombreux, Combes à leur tête. Dans le collimateur, l'Église. Ils vont développer un anticléricalisme tellement outré que les socialistes vont prendre leur distance par rapport à cette attitude qui masque le malaise social et n'agit pas pour l'atténuer. Les grèves organisées par la CGT se multiplient. Le Parti socialiste se réorganise. Le bloc des gauches éclate en 1905, lorsque la section française de l'Internationale ouvrière est créée, la SFIO.
En 1904, une loi est votée qui interdit d'enseignement les membres des congrégations, même autorisés. Cette fois, le pape Pie X s'en mêle. Les relations diplomatiques sont rompues avec le Vatican. Combes exulte. Pas pour longtemps. On découvre que le ministre de la Guerre, le général André du cabinet Combes, a mis au point un système de fiches qui détermine l'avancement des officiers en fonction de renseignements d'ordre religieux et politique. Et ces renseignements sont obtenus auprès des loges maçonniques. Le 4 novembre 1904, au milieu d'un débat fort houleux à la Chambre, le député nationaliste Siveton gifle le général André. Ça fait désordre. Combes est obligé de démissionner le 19 janvier 1905, laissant à ses successeurs le soin de régler le problème du concordat qui bat de l'aile. C'est Aristide Briand, le successeur de Combes au ministère de l'Intérieur et des Cultes, qui va apaiser les esprits et faire voter la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Cette loi met fin au concordat, signé le 16 juillet 1801 à 2h du matin par le premier consul. Désormais, la République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes, mais n'en reconnaît ni n'en subventionne aucun. La laïcité à la française est née. Les biens détenus par les églises deviennent la propriété de l'État, qui se réserve le droit de les mettre à disposition des associations culturelles qui pourront en disposer gratuitement. La République des radicaux a donc réussi à créer les conditions nécessaires à un changement profond des mentalités. Les instituteurs, les hussards noirs de la République, prennent en main les consciences, dont Jules Ferry avait promis qu'elles seraient enlevées aux religieux. Ils enseignent une autre sorte de foi, la foi dans le progrès, dans l'unité républicaine. Ils assurent à chacun des conditions d'égalité pour avoir accès au savoir. La richesse n'est plus une condition nécessaire pour aller vers les diplômes. La pensée républicaine, installée dans les jeunes générations qui éduqueront elles-mêmes leurs enfants de la même façon, une deuxième unité peut être alors envisagée, celle de l'action. Et cette action, que chacun souhaite depuis 1870, c'est la revanche, la guerre au terme de laquelle l'Alsace et la Lorraine reviendront dans le giron national.